Bienvenue dans la Méridienne. Et pour commencer cette émission, une chronique culinaire, ça tombe bien. Il est midi et c'est notre chroniqueuse, blogueuse Clara qui va nous parler de la carbonade flamande. Restez avec nous car par la suite, c'est Angèle Delatour, directrice de l'écomusée du Véron, qui nous parlera de ce lieu et précisément de l'exposition Constellation Capricorne.
Bonjour, c'est Clara depuis Lille, au nord de la France. Aujourd'hui, je vais vous parler de la carbonade flamande, qui est l'un des plats typiques des Flandres. Donc si je résume, on le trouve au nord de la France, mais aussi en Belgique. C'est un peu le bœuf bourguignon local. En effet, ce bœuf braisé avec des oignons est cuit dans de la bière et du pain d'épices. Il mijote pendant plusieurs heures afin d'obtenir ce petit côté caramélisé. La sauce qui en résulte est onctueuse, légèrement épaisse. Elle est en réalité liée avec du pain, une très vieille technique en cuisine. Et lier une sauce, pour ceux qui se le demandent, c'est justement lui donner plus de consistance. On passe d'un jus, d'un bouillon, à quelque chose de plus épais. Petite subtilité, pour la carbonade à la liégeoise, on ajoute un peu de sirop de Liège, une sorte de mélasse à base de pommes et de poires. On le trouve aussi aux Pays-Bas assez couramment, sous le nom de stroop. Mais quelle est l'origine de cette recette? On voit parfois que les ouvriers des mines de charbon l'ont réalisée, d'où son nom carbonade. Mais en réalité, d'autres sources mentionnent qu'elle existerait depuis le Moyen-Âge. En général, l'explication la plus commune est qu'à l'origine, la viande était braisée sur le charbon, d'où la carbonade. Mais cette dernière explication n'est pas approuvée par tous, car à l'époque, pour braiser la viande, on pouvait aussi dire qu'on l'a carbonisée. Et puis, on remarque tout de suite que la carbonade flamande semble être une cousine du bœuf bourguignon. Une similitude datant sûrement du temps où les Flandres faisaient partie du duché de Bourgogne. La carbonade serait-elle donc espagnole? Car oui, sur le sujet de la carbonade à la flamande, d'autres points font aussi débat. La vraie carbonade traditionnelle est-elle réalisée avec de la viande de bœuf ou de cheval? Et puis, doit-on écrire carbonade avec un N ou deux? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'en général, ce sont les pommes de terre qui accompagnent ce mets, le plus souvent des frites, mais aussi de la purée ou des pommes de terre vapeur. Et en boisson, de préférence une bière, évidemment. Ce ragoût de bœuf a de nombreuses versions de sa recette, car tout dépend des familles. Ainsi, certains utiliseront de la viande grasse, mais chez moi, on privilégie de la viande maigre. La première étape consiste donc à détailler 800 g de viande de bœuf à bourguignon en morceaux de 50 g environ. Ensuite, après avoir fait fondre 20 g de beurre dans une cocotte, de préférence du beurre clarifié, on y fait revenir 200 g de poitrine de porc détaillée en gros lardons. On sort les lardons de la cocotte et on fait dorer les morceaux de bœuf sur toute leur face. On sort ces derniers pour les remplacer par 3 oignons et 4 échalotes émincées ainsi que 3 gousses d'ail écrasées. On fait revenir le tout et on ajoute 20 g de vergeoise brune qui est une sorte de cassonade à base de betterave sucrière. Puis on déglace avec 1 décilitre de vinaigre de vin, on remet les viandes dans la cocotte qu'on vient saupoudrer d'une cuillère à soupe de farine et on mélange bien l'ensemble. On verse alors 45 cl de bière de garde type Jeanlin ou lève brune et 45 cl de fond de veau. Normalement, ça doit recouvrir la viande. On ajoute un bouquet garni et enfin 4 tranches de pain d'épices tartinées de moutarde. C'est enfin le moment d'enfourner pour 2h30 dans un four à 160 degrés. Petite astuce, la carbonade fait partie de ces plats qui sont meilleurs réchauffés. Si vous voulez la préparer, vous pouvez retrouver la recette sur le site de la cuisine de Mémé Monique. Alors, vous testez ?
Thank you.
Vous écoutez La Méridienne sur Radio Campus Tours. Merci Clara pour cette chronique sur la carbonade flamande. Et tout de suite, écoutons une interview téléphonique de Angèle Delatour, directrice de l'écomusée du Véron. Madame Delatour, vous travaillez à l'écomusée du Véron. Vous êtes même la directrice de l'écomusée du Véron. Est-ce que vous voulez tout d'abord nous présenter cet écomusée ?
Alors, cet écomusée, il se compose donc d'un musée et puis d'un espace naturel de 5 hectares. Et il est situé à la confluence de la Loire, de la Vienne, sur un territoire protégé, puisque l'ensemble est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, classé Natura 2000, pour sa biodiversité. Donc cet écomusée, ce qu'il a de particulier, c'est que en fait c'est un musée pluridisciplinaire qui s'intéresse en fait au rapport de l'homme avec son territoire sous tous les champs du savoir, c'est-à-dire que rien n'est écarté, donc on peut travailler aussi bien en histoire, archéologie, histoire des arts. Ce qui nous permet d'avoir une potentialité de renouvellement important chaque année à l'occasion des expositions temporaires. À côté de ça, on a de nombreux partenariats. On travaille avec l'École des Beaux-Arts de Tours. On accueille des élèves en résidence ici sur notre site, puisque l'art a une place importante. Puisque pour nous, il est aussi une manifestation de phénomènes de société, etc. Donc on a des associations qui sont aussi sur le site, qui travaillent et la taille de pierre, et la batellerie de Loire, donc les bateliers ligériens, une association fondatrice aussi de l'écomusée, en fait, qui a permis sa création, qu'on héberge aussi ici. Donc, c'est vraiment un site, je dirais, très, très varié, qui travaille étroitement avec sa population locale.
Alors, vous êtes situé à Savigny, alors que je ne dise pas de bêtises, c'est à Savigny en Véron. Pourquoi historiquement le musée, l'écomusée, est ici, sur ce lieu-là ?
Alors, en fait, il est ici parce que. C'est vraiment un concours de circonstances. Hein. En fait, c'était un musée qui était censé représenter uniquement le territoire du Véron. Et le Véron, en fait, c'est cette pointe qui est située à la confluence de la Loire et de la Vienne et qui regroupe quatre communes et qui a la particularité d'être en zone inondable. En fait, le Véron, ça signifie en fait territoire d'eau en fait à la base. Et donc, si vous voulez, en fait, c'est un érudit local qui a collecté, en fait, initialement, énormément d'objets avant, en fait, l'installation de cette centrale nucléaire. Parce que vous savez qu'on a une centrale nucléaire à Avoine, donc vraiment juste à proximité. Et donc, la collectivité a décidé d'ouvrir un musée, donc, pour présenter ses collections, et il s'est trouvé que les fermes de l'écomusée étaient à vendre, et cette architecture vernaculaire est vraiment représentative de l'habitat en zone inondable. C'est pour ça que l'écomusée a trouvé naturellement sa place dans ces anciennes fermes, qui sont légèrement situées sur un promontoire face à ces 5 hectares de bocage qui s'étalent juste devant.
Angèle Delatour, est-ce que vous voulez préciser un peu pour nos auditeurs ce qu'est une architecture de zone inondable ?
Alors, une architecture de zone inondable, déjà c'est un emplacement particulier. À Savigny, justement, les maisons sont constituées sur des petites buttes qui sont hors d'eau pour échapper aux problématiques d'inondation. Surtout de la Vienne, en fait, qui sort assez fréquemment de son lit. Et puis, c'est toute une technique de construction, c'est-à-dire que le tuffeau étant une roche perméable, on va utiliser des soubassements qui sont en grès, donc qui vont résister donc à l'eau. C'est des toitures qui sont en croupe, c'est des ronds de lit au niveau des toits qui permettent l'évacuation de l'eau. Donc, en fait, c'est toute une technique de construction pour résister à cette problématique de l'eau, effectivement, mais qui peut être aussi richement décorée. Hein. C'est le cas de nos, de nos fermes qui sont fin 18e, début 19e, qui ont aussi cette architecture en tuffeau qu'on connaît bien dans la région, hein, avec des jolies lucarnes, des pilastres, etc. Donc cette exigence technique pour échapper aux problématiques d'inondation n'est pas incompatible avec le raffinement du décor. Voilà.
Est-ce qu'il y a des contraintes particulières pour installer un musée dans des bâtiments en fait, de cette époque ? Est-ce que vous avez dû faire des travaux particuliers pour être sûr que...
Oui, alors on a dû faire des travaux particuliers, mais ce n'est pas forcément lié au fait de la zone inondable. Je dirais. En fait, si vous voulez, cette année, donc l'écomusée a participé à une opération qui s'appelle Culture près de chez vous, qui nous a permis, donc par le biais du ministère de la Culture, de participer à un plan d'itinérance des œuvres d'art en région. Et ce plan très intéressant en faveur de la démocratisation culturelle a impliqué une mise aux normes du musée, notamment au niveau des conditions de sécurité et de conservation. Donc de sécurité, forcément, puisque ce sont des œuvres qui ont des valeurs d'assurance très importantes. Le musée a été mis donc sous un système de vidéosurveillance et de détection automatique d'alarme incendie. Et qui plus est, au niveau des conditions de conservation, qui sont assez exigeantes, on a dû donc installer un système qui nous permette d'avoir une température constante et un taux d'humidité également. Voilà. Donc l'écomusée a fait donc de gros efforts, je dirais, cette année pour poursuivre cet accueil d'œuvres assez emblématiques, puisque l'année prochaine, nous allons continuer donc le partenariat avec le Centre Pompidou, qui nous a prêté donc plusieurs œuvres cette année, dont le Capricorne de Max Ernst. Et l'idée, c'est de participer au rayonnement de leurs œuvres ici, sur des territoires plus éloignés des métropoles.
Alors voilà. Comment on construit justement une collection d'œuvres assez prestigieuses quand même, il faut le dire, comment vous avez construit cette collection ?
Alors, en fait, c'est bien, en fait, enfin, ces collections qui sont du Centre Pompidou ne nous appartiennent pas. En fait, ce sera uniquement des dépôts. Nous avons une collection ici à l'écomusée d'à peu près 8000 pièces, qui sont des pièces, je dirais, par moitié ethnographique et archéologique. Nous avons une collection archéologique intéressante, notamment liée à la période antique. Et cette année, nous sommes en pleine réécriture de notre projet scientifique et culturel. C'est un projet qui nous est demandé par le ministère et les DRAC, puisque nous sommes un musée de France, qui donne une visibilité, enfin une projection, je dirais, à 5 ans de l'évolution du musée. Et effectivement, nous souhaitons intégrer dans nos acquisitions des pièces artistiques. Voilà. Alors après, vous avez ce système d'acquisition, mais aussi le système de la mise en dépôt et des prêts. Et donc ces prêts sont intéressants. Donc c'est ce qui se passe avec le Centre Pompidou, avec le musée Picasso, puisque nous avons eu quelques Picasso aussi cette année, qui nous permettent aussi de participer au rayonnement du musée sur le territoire en accueillant ces pièces prestigieuses. Voilà, alors nous les accueillons, mais nous n'en sommes que les dépositaires. Mais effectivement, c'est aussi un volet intéressant qui permet effectivement d'avoir une meilleure visibilité du site et voilà, d'oser présenter de telles pièces en région. Voilà. Alors après, c'est une logistique assez complexe, notamment pour les pièces graphiques, que l'on ne peut présenter que 3 mois et il faut donc avoir un roulement de pièces compte tenu des conditions de conservation liées pour le coup à la lumière, puisque une pièce, nous avons eu un dessin de Picasso par exemple, qui ne pouvait être présenté que 3 mois à 50 lux. Donc voilà. Après, l'œuvre doit rester 1 an dans le noir, ce qui suppose d'avoir suffisamment anticipé ses prêts pour parvenir à un roulement de ces pièces afin qu'elles puissent être présentées dans le musée.
Comment vous choisissez les œuvres qui vous sont prêtées en fait ? Est-ce qu'il y a un catalogue d'œuvres à prêter ? Est-ce que Vous définissez, pardon, avec votre équipe, une cohérence avec les pièces que vous avez vous-même, avec les résidences en cours ?
Bien sûr, en fait, effectivement, l'idée, c'est pas seulement d'avoir des pièces prestigieuses, mais c'est qu'elles entrent dans donc le concept, je dirais, de l'écomusée, effectivement, et qui plus est, des expositions en cours. L'idée, c'est d'avoir un lien forcément avec le territoire. Et cette année, nous nous sommes centrés sur Max Ernst parce que Max Ernst est un artiste qui a vraiment un rôle de passeur dans notre projet scientifique et culturel et sur lequel on s'appuie énormément et qui a vécu sur le territoire, qui a créé 13 ans ici. C'est pour ça que la pièce du Capricorne, qui est vraiment une œuvre totem, hein, je dirais, pour Max Ernst, puisqu'il a créé en 1947 en Arizona, il revient... il réalise des moulages de cette pièce qu'il va retravailler ici, sur le territoire où nous sommes, qui sera donc ensuite présenté donc sur la terrasse du Centre Pompidou. Donc pour nous, c'était assez emblématique que de faire revenir cette œuvre qui a été créée ici dans nos murs. Donc c'est vrai que la personnalité de Max Ernst, qui a côtoyé Calder, qui n'est pas non plus très très loin, ces artistes-là ont un ancrage territorial fort pour nous. Donc c'est la deuxième exposition que l'on consacre à Max Ernst, même si cette année, nous avons travaillé plutôt sur la thématique de l'hybridation. En fait, on va se servir de l'œuvre d'art pour faire naître une thématique, je dirais, qui touche l'homme, puisqu'on est quand même un musée de société, un musée qui parle de l'homme. Et cette année, c'était vraiment l'idée de traiter de ce rapport de l'homme avec l'animal et de questionner en fait le visiteur, à savoir le lien que l'on peut entretenir avec lui. Est-ce que c'est une fascination ? Est-ce que c'est un désir de le retrouver ? Enfin, voilà, l'animal totem, enfin, des choses qui résonnent aussi dans notre société actuelle. En partant de cette œuvre d'art. Donc en fait, les œuvres, elles sont là pour nous amener à réfléchir sur des problématiques qui touchent l'homme, en fait, toujours. Donc l'année prochaine, les œuvres que l'on empruntera seront en lien avec la thématique de notre exposition, puisque l'idée, c'est qu'elles fassent toujours sens, et notre prochaine exposition sera sur la thématique de la Vénus et de la féminité. Voilà. Donc toujours des sujets très, qui nous touchent en fait, hein, directement, nous en tant qu'hommes. Et le partenariat du Centre Pompidou viendra s'insérer justement dans cette problématique-là. Donc oui, les œuvres empruntées sont toujours en lien avec ce qui nous préoccupe, quoi.
Vem pra defender. falar em céu e mar.
Alors, dans le catalogue que vous éditez pour cette exposition Constellation Capricorne, on voit là, oui, dans le, comment dire, au sommaire, vous résumez ce que vous disiez, hein, rois et reines, femmes hybrides, oui, et multiples, homme animal, et on voit que cette exposition, c'est aussi un voyage dans le temps, puisqu'il y a des pièces qui viennent, je crois, de l'Égypte antique, si je ne dis pas de bêtises.
Oui. Oui, en fait... Cette perspective que nous adoptons, c'est justement de ne pas se donner de limites et dans l'espace et dans le temps, et de partir du territoire pour aller vers quelque chose d'universel. Voilà. Puisque finalement, le fait de travailler de façon conceptuelle, eh bien, nous autorise en fait ça et permet de décloisonner. Nous, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, je vous parlais de l'animal totem aujourd'hui, et de mettre ça en rapport avec les dieux égyptiens. L'idée, c'est de travailler justement sur le sens qu'ont donné les hommes sur ce lien homme-animal au travers le temps, de façon à avoir un questionnement aujourd'hui plus pertinent. Donc, cette façon de travailler de façon plus universelle et intime à la fois, dans la temporalité et dans l'espace, c'est vraiment, je dirais, une des révélations pour nous cette année avec Constellation Capricorne qui détermine ce souhait de travailler davantage dans ce sens-là, en fait. Quand je vous parlais de Vénus et féminité, l'idée, c'est de présenter aussi bien des Vénus qui datent de l'origine de l'humanité pour arriver à des créations contemporaines d'aujourd'hui, de façon à avoir un questionnement plus global et bien, enfin, amplement illustré, en fait.
Voilà, et donc dans cette exposition, on peut voir aussi des comics, je crois, il y a...
Complètement.
Voilà.
Ouais.
Alors,
oui, effectivement, ce qui interpelle beaucoup les enfants, oui, c'est comics, donc l'animal comme une extension de nous-mêmes et qui nous permet de parvenir à des choses qu'on ne peut pas faire dans la réalité. Oui, donc on retrouve Batman, Spider-Man, voilà, au même titre, si vous voulez, que ces dieux égyptiens dont vous me parliez, qui sont représentés également.
Alors comment le visiteur circule dans cette exposition, parce qu'il y a aussi tout un travail de scénographie. Comment on y entre et comment on y progresse ?
Alors en fait, le visiteur, lorsqu'il entre, il découvre la pièce de Max Ernst, donc Capricorne. Et c'est à partir de là que s'articule la scénographie. Cette première impression qui envahit le visiteur est finalement une interprétation, une proposition d'interprétation assez libre autour du Capricorne de cette notion d'hybridation. Donc il y trouve une représentation de la femme, puisque la femme est hybride, elle est à la fois oiseau, sirène, elle a un disque sur la tête, donc il entre par un questionnement autour de cette œuvre-là. Et il va entrer progressivement dans ce questionnement autour de l'hybridation. On par cette entrée de l'œuvre pour arriver à un questionnement plus universel qui va nous permettre de parcourir et l'espace et le temps et de se questionner soi-même. L'idée, c'est finalement à la fin d'avoir ce questionnement par rapport à soi. Mais au départ, le visiteur arrive, donc il observe l'œuvre, il peut en faire le tour, elle a une position assez centrale, il observe donc ce couple, il s'interroge sur lui, qu'est-ce qu'il signifie, et sur la représentation de cet homme minotaure et de cette femme sirène. Donc il est directement plongé dans un questionnement assez cosmique, en fait, puisqu'il y a une voûte céleste qui tourne derrière le Capricorne. Enfin, il est complètement... Enfin, l'idée, c'est aussi de le déconnecter. Voilà, il entre dans cette salle, il est dans un autre monde, et il voyage au travers de ces représentations de sirènes et de minotaures qui traversent le temps, puisqu'on a des représentations extrêmement anciennes, antiques, pour arriver à des représentations du Minotaure chez Picasso notamment. Voilà, c'est une scénographie qui est très épurée, qui incite vraiment le visiteur à explorer chaque objet, où chaque objet en fait a un rayonnement particulier. C'est vraiment l'idée de privilégier quelque chose de plus épuré qui donne la parole à l'objet et non pas une accumulation où le visiteur pourrait se perdre. Donc les objets ont un côté assez iconique en fait, dans tous. Voilà, et puis il progresse et il est invité à se questionner sur le rapport homme-animal depuis la naissance de l'humanité, avec notamment une pièce qui nous a été prêtée par le musée de Saint-Germain-en-Laye qui représente des petits diablotins qui sont mi-homme, mi-animal, des objets décoratifs aussi, donc plus tardifs de la période gallo-romaine, où on y voit Cernunnos, un dieu qui est représenté avec des bois de fer, qui représente le cycle de la vie et le renouvellement à l'image du cerf qui perd ses bois et qui repousse. Voilà, et puis il découvre les dieux égyptiens, la place du scarabée de cœur, hein, qui était mis à la place du cœur de la personne défunte pour assurer sa vie éternelle dans le monde de l'au-delà. C'est les poupées Kachina aussi qui sont représentées, qui ont énormément influencé l'œuvre de Max Ernst. Des collections aussi africaines qui trouvent leur place, donc des masques essentiellement. Et puis ensuite on ouvre sur la dernière salle qui nous mène vers une période donc plus contemporaine. Donc là pour le coup il y a un parcours un petit peu chronologique quand même sur ces deux dernières salles. Donc on y trouve effectivement ces comics et puis deux artistes contemporains avec qui on a senti une affinité particulière, que sont donc Eddie Dubien et Richard Foguet. Donc Richard Foguet qui va présenter donc des œuvres qui sont issues d'une série qui s'appelle Bivalve et Monocouche, qui représente des hommes hybrides avec une affinité pour le monde sous-marin, où là on se retrouve un peu à l'origine de la vie en fait. Donc ces hommes sont des têtes qui sont représentées sur des espèces de petits coussins qui sont duels en fait. On a sur ces têtes en fait deux visages qui mêlent des coquillages et des représentations vraiment humaines, hein, puisqu'il s'agit de pièces en argile. Et puis on a derrière nous une immense toile qui s'appelle... j'en oublie le titre, Histoire d'un animal, Voyage d'un animal sans mesure, qui représente une tête vidée de son contenu, et c'est un ours en colère, hein, qui trouve sa place dans cette tête. Et donc Eddie Dubien, donc cet artiste qui travaille énormément sur le lien de l'homme avec le paysage, de l'homme avec l'animal, eh bien nous renvoie à ce lien primitif que nous pouvions avoir avec l'animal, qui est un petit peu oublié aujourd'hui, mais que l'on retrouve très bien chez lui, cet aspect instinctif, voilà, qui nous habite et voilà, qui n'a peut-être pas trop sa place dans le monde contemporain dans lequel on vit. Donc voilà, c'est un artiste avec lequel on souhaite travailler davantage, qui sera représenté certainement à l'Écomusée, peut-être pas l'année prochaine, mais dans les années à venir.
Alors, Angèle Delatour, vous expliquiez aussi tout à l'heure que le travail de ces expositions, c'est, de ces échanges, de ces prêts, c'est de permettre à tous les publics d'avoir accès à ces œuvres. Et sur votre site de l'Écomusée du Véron, il y a un onglet consacré au public, au pluriel. Est-ce que vous voulez nous dire un mot des actions de médiation que vous mettez en place et pour qui ?
Alors, les actions de médiation, elles s'adressent effectivement à un public très large, un public de scolaire, évidemment, de primaire, collège, lycée, avec, comme vous avez pu le voir sur notre site, un panel d'ateliers pédagogiques assez large qui intervient en résonance à ce que j'expliquais au départ, à savoir cette volonté de musée pluridisciplinaire, puisque les ateliers sont aussi bien liés à l'art, à la nature, enfin, finalement à l'homme dans tous ces aspects, je dirais. Donc les ateliers, ils sont proposés, ils peuvent être modulés avec l'enseignant. Il y a un travail aussi important qui est mené par l'équipe de médiateurs ici avec les enseignants pour affiner le projet, etc. Donc évidemment les scolaires, mais aussi les publics empêchés de façon un peu globale, mais ça peut être le public handicapé, tout ce qui est public handicap social, je dirais, ou physique, mental, qu'on accueille aussi à l'Écomusée en adaptant effectivement nos ateliers. Et puis vous avez peut-être pu le voir, on a aussi une programmation, un programme culturel qui nous permet de faire rayonner sur le territoire nos thématiques. Donc c'est à peu près une cinquantaine de manifestations avec dans lesquelles on intervient nous, mais pas seulement, c'est aussi tout ce réseau de partenaires sur le territoire, aussi avec les universités, avec d'autres institutions qui nous permettent donc de renouveler notre offre et de faire partager tout cela avec les habitants de notre territoire, mais pas uniquement, puisqu'en fait il y a de plus en plus de gens qui viennent aussi de plus loin. Voilà, et puis c'est les visiteurs individuels qui viennent. On essaie de se rendre assez disponible. Cette année, on a proposé des petites visites flash justement de l'expo, des visites courtes d'une demi-heure pour que le visiteur puisse s'approprier davantage le travail qui est mené ici. Voilà, alors après, on a des partenariats aussi, des publics d'école. Je parlais de l'école des Beaux-Arts, donc des étudiants qui viennent ici en résidence pour proposer un travail. Donc notamment avec les collèges, enfin un travail de médiation par rapport à leurs travaux ici, en fait, donc travaux qui seront présentés, qui font l'objet d'une inauguration aussi, voilà, à l'Écomusée. C'est les étudiants de l'école du paysage aussi de Blois qui sont venus et qui doivent revenir ici. C'est des chercheurs, des étudiants-chercheurs qui viennent travailler sur nos collections, puisqu'en fait on a la chance d'avoir un appartement en fait libre ici, qui nous permet d'accueillir en fait des étudiants en résidence. Donc c'est vraiment tout un dynamisme qui se crée avec les publics à différents niveaux en fait.
Est-ce que vous voulez juste donner par exemple un exemple de qu'est-ce qui attend une classe qui vient à l'Écomusée du Véron ? Qu'est-ce que les enfants vont faire ?
Bien écoutez, je vais prendre l'exemple. Alors une classe qui vient, alors déjà elle vient sur la journée pleine et elle essaie de mettre en lien les deux activités qu'elle va choisir pour que ça puisse être cohérent. Donc quand les élèves viennent découvrir l'exposition du Capricorne, eh bien ils vont toujours réaliser un atelier. C'est pas valable uniquement pour la visite du Capricorne. Par exemple, si des élèves viennent découvrir plutôt le paysage, ça peut débuter par une initiation aux différents types d'arbres par l'observation des feuilles, etc., pour réaliser ensuite une impression végétale. Donc là, les enfants vont faire une composition avec des feuilles et puis réaliser un sac par un système d'impression simple. Voilà, donc ça peut être par exemple ça peut être un atelier land art. C'est une appropriation aussi du paysage pour la détourner et transformer ça en œuvre d'art. Donc là, si vous voulez, il y a différentes étapes d'organisation, de mise au point au niveau du groupe en vue de la création. Et puis ça va se poursuivre par une prise de vue de l'œuvre qui a été réalisée. Donc voilà, donc les ateliers sont extrêmement diversifiés. Des ateliers de pratique, d'ateliers surréalistes en lien à l'œuvre du Capricorne. Enfin, c'est tout un ensemble d'ateliers au nombre d'à peu près une douzaine, je crois, qui vont permettre d'appréhender tous les volets de l'écomusée. Mais il y a toujours un moment où l'enfant est acteur de quelque chose, où il réalise. Il y a un aspect vraiment réalisation qui est très important ici. Voilà, donc il peut réaliser. Voilà, une lampe à huile s'il est sur la période des Gallo-Romains, ou une œuvre d'art dans l'esprit de ce que pouvaient réaliser les artistes de la préhistoire. Enfin, vous voyez, c'est extrêmement diversifié et toujours renouvelé par les expositions que l'on va accueillir chaque année, puisque des ateliers sont réalisés et mis en résonance avec ces thématiques qui se renouvellent chaque année.
Não tinha leite, não tinha pão pra sustentar Tita e João. Não tinha pai, nem tinha irmão, era só Tita e mais João. Não tinha leite, não tinha pão pra sustentar Tita e João. Não tinha pai, nem tinha irmão, era só Tita e mais João. Um dia João foi buscar lenha seca no mato. Oi, oi. O sol que era quente demais fez o mato queimar. João, que era velho, era fraco, não pôde apagar. O fogo correu pro barraco, fez Tita chorar. Ficou sem leite, ficou sem pão, ficou mais triste sem ter João. Não tinha pai, nem irmão, perdeu o barraco, perdeu João, perdeu o barraco, perdeu João. Um dia João foi buscar lenha seca no mato. Oi, oi. O sol que era quente demais fez o mato queimar. João, que era velho, era fraco, não pôde apagar. O fogo correu pro barraco, fez Tita chorar. Ficou sem leite, ficou sem pão, ficou mais triste sem ter João. Não tinha pai, já nem tinha irmão, perdeu o barraco, perdeu João, 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 perdeu o barraco.
Est-ce qu'il y a d'autres lieux en France proches de l'écomusée du Véron dans l'idée de cet écosystème finalement, puisque vous faites exister ensemble des chercheurs, des scientifiques, des artistes, des œuvres? Est-ce qu'il y a des lieux qui s'approchent de ça?
Oui, oui, bien sûr, y a des lieux qui s'approchent de ça, et en tout cas, cette envie de travailler dans ce sens-là est fortement préconisée par le ministère de la Culture, puisqu'en fait, il y a eu un rapport qui a été rédigé en 2017 qui s'appelle « Les musées du 21e siècle » qui incite justement les musées à travailler de façon pluridisciplinaire avec les populations, à pratiquer une médiation plus inclusive, etc. Donc ça, ce sont des demandes qui sont faites. Dans ce type de travail, alors au niveau des écomusées, oui, il y en a qui travaillent dans ce sens-là. Par exemple, l'écomusée de Camargue ou d'autres musées de société, par exemple le musée d'ethnographie de Genève. Enfin voilà, il y a des musées qui travaillent dans ce sens-là. Des écomusées, c'est vrai que c'est un petit peu difficile à dire, dans le sens où il y a un véritable problème autour de cette notion d'écomusée. L'écomusée, normalement, c'est plutôt un concept, effectivement, d'écosystème, comme on en parlait, de créer cet écosystème pluridisciplinaire, proche de la population et finalement non renfermé sur lui-même, parce qu'un écomusée, c'est un musée de territoire, mais qui n'a pas vocation à être un mausolée et à se renfermer sur une identité qui finalement n'existe pas, mais qui a plutôt vocation à s'ouvrir et à créer du lien, des réseaux, etc. Sauf que l'écomusée, au moment où il s'est créé, eh bien, dans les années 70, il y a eu une tendance finalement à un renfermement identitaire, et beaucoup d'écomusées aujourd'hui en France incarnent encore cela. Par exemple, c'est le cas de l'écomusée d'Alsace, par exemple, qui est plutôt dans une volonté de reconstitution d'un monde passé. Or, finalement, l'écomusée, ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas ça, mais ça attire quand même aussi une population touristique, hein, il faut bien le dire. Et du coup, ça crée une confusion auprès des gens qui, en venant dans un écomusée, ne savent pas trop à quoi s'attendre. Est-ce qu'ils vont redécouvrir un monde passé figé ou s'ouvrir vers d'autres horizons ? Donc oui, on retrouve des initiatives comme la nôtre, mais ça peut être exploité complètement dans un autre sens, au vu de ce que je viens de vous évoquer, donc avec le musée d'Alsace, qui est développé par d'autres écomusées aussi en France. Donc il y a une sorte d'ambiguïté autour de ce que l'on peut trouver dans les écomusées. Mais bien évidemment, il y en a, hein. Il y a le musée de Bretagne, le musée de la tradition basque qui est en train de se rénover également, et puis voilà, des musées d'ethnographie, le MUCEM par exemple, qui sont vraiment des grands musées qui peuvent citer à titre d'exemple, oui, musée d'ethnographie de Genève, le MUCEM par exemple.
Il y a peut-être aussi, même en région, des initiatives qui reprennent certaines de vos missions. Par exemple, la résidence La Verrerie. La Verrerie.
Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Et puis il y a des proches voisins qui effectivement travaillent aussi dans ce sens-là. Hein. Même les maisons d'écrivains, par exemple, hein, près desquelles on est. Voilà, le musée Rabelais, le prieuré Saint-Côme aussi, à La Riche. Voilà, là, je. Mais effectivement, c'est une tendance. Voilà, assez marqué des musées en région qui sont. Enfin voilà, c'est vrai qu'en région Centre-Val de Loire, on a quand même un dynamisme vraiment qui va dans ce sens-là. Après, voilà, moi je vous répondais vraiment sur plutôt l'écomusée, enfin l'institution d'écomusée et musée de société, vraiment, puisque en région centre, il n'y en a pas non plus énormément.
Voilà, c'est juste insister, mettre en avant en tout cas que dans certains endroits, c'est peut-être plus compris comme un musée de conservation du patrimoine.
Ouais, voilà, tout à fait.
Voilà, donc ce qui est intéressant aussi sur l'écomusée, je crois, c'est que il y a ce travail sur les différentes échelles d'espace et de temps, puisque il y a l'idée du patrimoine, du voyage dans le temps, on l'a déjà dit, mais il y a aussi l'idée du rapport à la nature. Hein, c'est comme une préoccupation majeure ces temps-ci. Et puis, je suppose que vous avez inventé des outils numériques aussi, peut-être.
Alors non, là, nous sommes aux prémices. Hein. Non, nous ne sommes pas très... Pour le moment, non, oui, c'est un projet, effectivement. Mais le numérique, on n'est pas... Voilà, on est plutôt sur la médiation humaine pour l'instant. La scénographie n'est pas encore, je dirais, au point sur l'aspect du numérique, mais on y pense effectivement, puisque je pense que c'est vraiment important. C'est un des projets de cet écrit dont je vous parlais, du projet scientifique et culturel de l'écomusée. Donc on a en projet effectivement d'installer des tablettes donc sur la partie du parcours permanent qui est consacrée à l'archéologie, donc avec un partenariat avec l'INRAP sur ce point-là, et puis d'utiliser davantage le multimédia dans la scénographie. Donc ça, c'est un autre aspect qui nous préoccupe, mais voilà, après on n'a pas encore eu le temps d'y travailler, puisqu'on est aussi d'activités, voilà, on est une petite équipe aussi ici, et voilà, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, mais c'est bien évidemment dans nos préoccupations à venir.
Est-ce que c'est une obligation qui est faite au lieu de culture de se numériser ou...
Ouais, je pense quand même. Je pense, alors après, en termes de médiation, personnellement, je pense que rien ne vaut la médiation humaine. Maintenant, à l'intérieur de la scénographie, oui, je pense que c'est important, notamment auprès du public jeune, parce que ça, le fait de voir ces outils numériques avec lesquels la jeune génération est quand même fréquemment en contact, oui, je pense que ça crée une certaine familiarité. Et ça peut être une entrée vers les collections que d'avoir ce type d'outils. Donc, je pense que oui, c'est intéressant. Maintenant, évidemment, ça remplacera jamais la médiation humaine, ça c'est clair. Mais ça peut être une porte d'entrée vers l'univers des collections, et ça peut permettre aussi de contextualiser, je pense. C'est-à-dire que, notamment pour les collections archéologiques, quand le public découvre ces collections, il est parfois difficile de les contextualiser. Alors, les maquettes sont là, bien évidemment, mais parfois ça ne suffit pas, et le numérique peut permettre d'apporter davantage, bien plus que la maquette. Et pour ça, je pense que c'est intéressant. Donc, ça permet de faire résonner la collection d'une façon plus pertinente, et d'en avoir une appropriation peut-être plus immédiate. Ça, je pense que c'est intéressant. Maintenant, je pense que voilà, l'idée de l'audio guide, par contre, me semble pas pertinente ici chez nous.
Bah, c'est vrai que ça pourrait sembler curieux de développer des audio guides dans un lieu qui parle de l'humain.
Bah, complètement. Ouais.
Donc oui,
sous certains angles, je pense que ça peut être intéressant, et voilà, c'est un de nos objectifs pour les années à venir, effectivement.
Par contre, peut-être peut-être que vous avez eu déjà une résidence d'artiste sonore, parce qu'après tout.
Eh bien non.
Non.
Nous n'avons pas eu. Alors là, en fait, nous allons avoir prochainement, oui. Une installation sonore, effectivement, ça sera vraiment assez modeste, hein, mais on a une étudiante qui, pour répondre à cette problématique d'intime et d'universel, a souhaité faire un lien de l'écomusée avec le musée du textile à Mexico, et donc ça s'appelle Tissage sonore, son travail, et seront diffusés à l'écomusée les sons du musée du textile à Mexico, et les sons de l'écomusée seront diffusés donc là-bas à Mexico. Donc voilà. Donc il y a effectivement ce projet là qui est en cours. Mais c'est le premier.
C'est très intéressant, ça a un pont sonore dans l'espace.
Oui. Voilà, donc ça verra le jour très prochainement, hein, puisque. D'ici une dizaine de jours.
Alors Angèle de la Tour, merci déjà pour toutes ces informations. J'espère que nos auditeurs viendront à l'écomusée du Véron. Est-ce que vous voulez nous rappeler où il se trouve exactement ?
Donc l'écomusée du Véron se trouve à Savigny-en-Véron, 80 route de Cande. Voilà, une cinquantaine de kilomètres de Tours.
Et cette exposition Constellation Capricorne avec,
voilà, qui est visible jusqu'au 11 novembre.
Jusqu'au 11 novembre, alors...
Jusqu'au 11 novembre, elle est visible jusqu'au 11 novembre avec une programmation culturelle que l'on peut retrouver sur notre site internet en lien plus précisément à Constellation Capricorne.
Voilà, donc le site écomusée-véron.fr et êtes-vous présent sur les réseaux sociaux ?
Oui, donc nous avons une page Facebook et Instagram qu'on essaie d'actualiser régulièrement, mais c'est pas non plus évident, mais on fait ce qu'on peut. Ouais.
Voilà, merci beaucoup voilà. En tout cas.
Merci beaucoup.
Bonne journée à vous.
Merci également, au revoir.
C'était La Méridienne sur Radio Campus Tours. Je vous dis à demain.